Ok, donc nous sommes dans les lois, Machanecha Kadosh, donc on pense au racin, donc l'interdiction de dire des paroles, même penser des paroles de Torah, ou de tefila, ou de prière, face à une chose qui sent mauvais à cause de putréfaction. Comment on appelle ça en français? Une pissotière. Ça veut dire un urinoir. Voilà, un ustensile dans lequel on urine.
Pour les hommes.
Je ne sais pas si l'urine des chats sent mauvais. Pardon? Ça sent mauvais. Ok, donc ça sera aussi pour les urinoirs de chats, d'accord? Alors ça dépend. S'il est fait en bois ou il est fait en poterie, alors vu qu'il absorbe la mauvaise odeur, lui-même il a un statut de mauvaise odeur. Donc même s'il est propre, on l'a bien rincé, néanmoins vu qu'il est imbibé d'urine, alors il a un statut de urine lui-même. Si par contre il est fait de métal, ou comme on a aujourd'hui de poterie qui est recouverte d'une couche de verre, ou d'un vernis qui fait qu'il n'y a pas d'absorption possible, alors s'il est propre, il n'y a pas de problème, il n'a pas un statut de choses qui sont mauvaises, on pourra dire, on va penser dire des paroles de Torah et de Tfila en face. Si quelqu'un se trouve dans un endroit où il y a un doute s'il y a des excréments, à l'époque il y en avait un peu partout dans la rue, d'accord, aujourd'hui c'est un peu plus rare, et par exemple face à une poubelle, où il y a de fortes chances qu'il y ait des excréments avec des langes d'enfants qui sont ouvertes. Ou bien, c'est beaucoup plus courant, par exemple, tu as un enfant qui est chez toi à la maison, aujourd'hui, il a une couche, d'accord, des langes, et hop, il a fait, et ça sent mauvais. Maintenant, vu qu'il est éloigné de toi, tu ne sens pas que ça sent mauvais, mais l'odeur s'arrête à moins de 2 mètres de toi, donc il y a un problème, tu n'as pas le droit de dire tirer le chemin, ou de dire des paroles de Torah ou de bracha, d'accord, et c'est très courant. Donc il faut faire attention à cela. Si donc il y avait un doute, s'il y avait des excréments dans le coin, on doit aller vérifier. Si on ne peut pas vérifier, alors s'il y a effectivement un doute qui est ici maintenant des excréments, vu que c'est d'Oraïta, c'est interdit de la Torah, donc on ne fera aucune prière. Quelqu'un maintenant va faire Kriyat Shema. Il y a un doute maintenant si c'est excrément ou pas, et il ne peut pas vérifier. Alors vu que c'est de la Torah qu'il est interdit de dire des paroles de Torah, donc même que le temps de Kriyat Shema il va passer, ben il ne fait pas Kriyat Shema. À quel point c'est important.
C'est aussi d'Oraïta l'heure du Kriyat Shema.
C'est vrai.
C'est plus grave de rater une mitzvah assez d'Oraïta qu'un lota assez.
Même Machanecha Kadosh, ce n'est pas un lota assez, c'est un assez. Même Machanecha Kadosh, mais il est grave. Et on te dit, on ne fait pas une mitzvah avec une avéra. Si par contre, maintenant, il y a un doute s'il y a de l'urine ici, par exemple, il y a un peu de coude par terre, et pas savoir si c'est... Moi, j'étais à l'hôpital ce Shabbat, avec mon beau-père avait un problème d'urine, d'accord, il y avait quelques gouttes par terre. Je n'ai pas fait attention, j'ai fait une bracha là-bas, c'est un problème. Mais si après, j'ai vu le dégoût, je ne sais pas si c'est oui ou non, donc je n'ai pas fait. Mais si j'avais pas le choix, je n'aurais pas pu aller plus loin, des 2 mètres, il y a des gouttes et j'ai un doute, est-ce que c'est de l'urine ou pas? Vu que l'urine c'est des rabananes, alors on pourra faire Kriyat Shema et dire les paroles de Torah. Si maintenant quelqu'un, excuse-moi, je finis juste, si quelqu'un il va à un endroit et il prie, et il fait Kriyat Shema, et après quoi il se rend compte qu'il y avait ici un excrément, alors on n'oblige pas à refaire la prière, par contre il fera Kriyat Shema. Si on voudrait faire Kriyat Shema, on peut le refaire. Refaire la prière, c'est-à-dire le brachot, donc c'est un problème. Ça, c'est dans un endroit où il n'y avait pas de... A priori, il n'y avait pas de suspicion qu'il y ait ici un excrément. Mais si, par contre, il y avait un endroit où il y avait une suspicion, il aurait dû vérifier, il n'a pas vérifié, même si c'est Béchogek, il n'a pas fait attention, il a complètement oublié, mais il y avait quand même... S'il a fait attention, il aurait dû vérifier, il doit refaire la prière. Plus forte raison si, de façon méside, de façon volontaire, Il s'est dit, ça, j'ai la flemme de vérifier, je sais que je dois vérifier, mais j'ai la flemme. Et après, il s'avérait qu'il y avait ici un excrément, donc c'est clair qu'il doit refaire et Kriyat Shema et la Tfila. Si c'est par contre de l'urine qu'il trouve, vu que l'urine fait de la banane, donc il n'y a aucun problème, il n'est pas obligé de refaire ni Kriyat Shema, ni la Amida.
On fait venir la Kadosh Baruch Hu dans quelque chose de malsain quand on fait ça à côté d'un excrément, quand on prie à côté d'un excrément ou quoi. Et après, on peut se rattraper, on refait le Kriyat Shema, mais il n'y a pas quelque chose pour annuler que...
Non. L'interdit, il est fait. Il faut faire tchouva, il faut faire attention pour le futur, de faire tout comme il faut.
Bref, si nous, ça nous arrive en pleine Amida, qu'on ait une flatulence, on doit arrêter.
Ah, la flatulence, alors... Si quelqu'un lui-même, il fait une flatulence, alors s'il sent l'odeur...
Mais avec les tuyens, en soi, c'est interdit.
Hein. C'est interdit.
Si quelqu'un prend les tuyens... Ça sort, maintenant, on n'a pas calculé.
Sans les tuyens, ça veut dire Shabbat, la synagogue du matin.
Ou à Mincha ou à Arvit. Dans tous les cas, maintenant. Donc, si quelqu'un prend les tuyens, il n'a pas le droit d'avoir de flatulence. Il a eu. Ou s'il n'a pas de tuyens, et il a une flatulance. Tant que lui sent l'odeur, alors il n'a pas le droit de ni dire des paroles de Torah, ni prier, ni rien de sainteté. Jusqu'à ce que l'odeur s'évapore. Si maintenant quelqu'un d'autre a fait une flatulence traître, c'est-à-dire sans qu'on entende.
Un silencieux.
Voilà, un silencieux traître, d'accord, qui sent mauvais. Alors là, hein, ça dépend. Si on est en train d'étudier la Torah, Chazal, on fait une takana, on fait un décret comme quoi on peut continuer à étudier bien qu'il ait mauvaise odeur. Parce qu'il est impossible dans un bête midrash où tu as 50 personnes ou quelques centaines de personnes qui étudient, qu'il n'y en a pas quelques-uns qui ont des problèmes de digestion et qui font des flatulences. Dans ce cas-là, on va arrêter, on ferme la yeshiva et il n'y a plus de Torah. D'accord ? À cause de Bitul Torah qui est tellement grave, on autorise à étudier bien qu'il ait mauvaise odeur. Par contre, si c'est prière, vu que la prière, c'est pas aussi important que l'étude de Torah, et qu'on peut ne pas prier, si pas maintenant, bon, on peut prier un peu plus tard, on peut s'arrêter au milieu de la prière, etc. On devra s'arrêter tant qu'il y a la mauvaise odeur.
Si jamais la personne elle prie et elle a une flatulence, mais elle avait des problèmes au ventre, au final sa flatulence est devenue un problème matérialisable, et lui il est en pleine Amida.
Voilà, quelqu'un, alors si quelqu'un m'attend en plein dans l'Amida, et il a eu.
Il fait pas tout sur lui, mais il sent qu'il y a quelque chose dans son
patron. Il a fait ses besoins, que ce soit grand ou petit. Petit, ça va, mais si c'est grand, alors il fait trois pas en arrière.
Il sort sa mine en plein milieu.
Ouais, ouais. Il n'a pas trop de problèmes à bouger dans l'Amida. Quelqu'un maintenant, il a un doute, il ne sait plus maintenant qu'est-ce qu'il doit faire en cas d'une bracha, il a oublié. Voilà. Il peut aller voir un jour en haut, regarder, mais tout ça en silence. Ce qui est très grave dans l'Amida, c'est de parler. Parler, c'est un problème. Mais c'est marqué, c'est quelqu'un tout coup maintenant, il a tout à coup diarrhée, voilà, il peut pas se retenir. Alors, se retenir de faire une flatulence, c'est permis. On n'a pas le droit de prier si on sent qu'on doit aller aux toilettes. C'est interdit. Maintenant, on a le droit de prier si on sent qu'on a besoin de faire une flatulence, on se retient. C'est permis. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à prier et il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Du coup, il a besoin d'aller aux toilettes, il n'arrive pas à se retenir et ça sort, d'accord ? Ou ça va sortir. Ça va sortir avant que ça sorte. Il peut faire trois pas en arrière, vite aller aux toilettes, reprendre après, faire trois pas en avant, reprendre l'amida où il était, à condition qu'il se taise complètement. Et alors, quand il aura fini l'amida, il va faire un chariat de ça.
Mais c'est pas un problème, puisqu'il est mort depuis la salle, puisque c'est à son de penser de mon gadoc.
D'accord, mais dans un cas d'extrême, tel que ça, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne va pas faire dans son pantalon, gadoc, codabriote. D'habitude, on autorise tous les issourim, toutes les interdictions des rabbanan, sont autorisées pour codabriote, pour l'honneur des personnes. Ça, c'est l'honneur de quelqu'un pour pas faire sans sa culotte, d'accord, c'est pas honorable de faire sans sa culotte, on lui permettra de transgresser un interdit des rabbanan.
L'urine, c'est rabbanan, aussi, vous avez dit.
Pardon ?
L'urine, c'est rabbanan, vous avez dit.
Non, là, je parle maintenant, passer devant quelqu'un quand il prie, c'est un interdit des rabbanan. Est-ce qu'on pourra prier pour aller vite se soulager ? Oui.
Est-ce qu'il faut dire Rosh Shalom, par exemple, quelqu'un derrière nous qui n'a pas terminé, nous on avait terminé, est-ce qu'il faut dire Rosh Shalom avant de faire les trois pas ou...
Non. Non, tu restes, tu dis Yulah Hasson.
Il n'y a pas envie
de parler ? Tu peux après le deuxième Yulasson, faut pas déranger les gens dans l'Amida, faut pas parler du tout, mais bon, après le deuxième Yulasson, l'Amida elle est considérée comme terminée.
J'y ai pensé aussi, parce que ce matin j'ai eu retard dans l'Amida, et ouais. Il y a eu 5, 3 va y avoir, que j'ai fait pendant l'Amida, enfin, j'ai pas fait pendant l'Amida, je me suis arrêté. Mais quand je suis dans la dernière brachot, est-ce que je peux la faire, va y avoir ?
Alors, Ishmael, il écrit que oui. Tu dis pas va y avoir, tu dis Hachem, Hachem. Quelle
raison de faire ? Tu réponds que ça va y avoir.
Non.
Mais je m'accompagne.
Tu te concernes et tu dis Hachem, Hachem, quelle raison de faire ? Comme ça, il écrit Ishmael.
Ah,
Ouais. Ok, les excréments ont un digne d'excrément que chez un enfant qui est déjà capable de manger kazaï, donc une quantité d'un cube de 3,1 cm de côté de pain. Un gosse, c'est environ vers l'âge de 1 an, comme ça écrivait Poskim, qu'avant 1 an, l'excrément d'un enfant n'a pas le statut d'excrément, bien qu'aujourd'hui, il se peut qu'il soit déjà plus précoce. Quand je dis du pain, ce n'est pas forcément du pain, c'est n'importe quoi, même tout ce qui est céréales, il se peut être par exemple, comment on appelle ça en français, une daïssa, une semoule, bouillie, d'accord, une semoule comme ça, quand on donne à un enfant, s'il mange une quantité en 4 minutes de kazaït, donc un cube de 3,1 cm de côté, alors considère déjà que ces excréments ont un statut d'excrément à tout égard. Néanmoins, on fait attention si possible avec les excréments des enfants dès l'âge de 1 jour aussi. D'accord, c'est moins grave, il y en a qui vont autoriser. La lacha, c'est bien d'être marmir. Non, pas forcément. Pas forcément. En tout cas, c'est pas considéré comme le vrai excrément. Ensuite, un excrément qui est sec. S'il est sec au point que lorsqu'on le roule, il se désagrège, alors il n'y a plus assez d'excrément et c'est permis de dire par le Torah en face de cela. Mais s'il ne se désagrège pas, seulement il se casse en deux ou en trois, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'il devienne poussière. Donc c'est vraiment une quantité de... soit sec, très très sec.
Si les chaussures dans la main, c'est un digne d'excrément.
Non. Mais si elles sont mauvaises, c'est un problème de dérabanane. On va dire que c'est... de Raita. Ça sent mauvais.
Vous avez dit que... Non, c'est pas une question de sentir mauvais. Qu'en soi, la chaussure, elle a un signe de saleté.
Saleté si on la touche.
Si on la touche.
Mais elle sent pas mauvais. Une chaussure sent mauvais.
Non, mais est-ce que je peux faire je peux dire
pas de problème. Pas de problème.
Avec une chaussure dans la main.
Dans la main, non.
Oui, si je suis en train de mettre ma chaussure.
Non, il y a des gens qui étudient des fois ici, ils se touchent le pied. C'est un problème. D'accord, le pied, il faut se laver les mains. Dès qu'on se touche, pas le pied, il se touche la chaussure. Alors dès qu'on trouve la chaussure,
remettre son lacet, c'est pas...
Si tu touches le lacet sans toucher la chaussure, ça va. Si tu touches la chaussure, il faut se laver les mains.
Et là, si on a un chien et ils sont mauvais...
Pourquoi sont-ils mauvais?
Bon, en général, les chiens, faut les laver souvent, sinon ils sont mauvais.
Et quand tu les laves, ils puent le plus.
Ouais, et si on a un chien, par exemple, ils sont mauvais, ils se baladent dans la pièce et on fait amidage.
Bon, sentir le chien, je ne sais pas si ça cause de putréfaction. C'est pas pire que sentir l'ammoniaque ou le soufre. C'est ça que je pose la question. J'ai pas mal posé qui vous en disait. Elle disait que le chien, lui-même, il sent mauvais.
Non, ça veut dire ses poils, tout ça.
C'est quoi, mais c'est son odeur à lui. Je veux dire, c'est pas dû à une putréfaction. C'est comme l'odeur du poisson, non, d'accord.
On a le droit d'avoir un chien dans la religion, si ça sert à rien, t'as aucun intérêt et tout.
Faut pas avoir un jardin.
On n'a pas le droit d'avoir un chien si c'est un chien méchant.
Chien qui sert à rien.
On a le droit d'avoir un chien qui sert à rien s'il n'est pas méchant, d'accord. S'il est méchant, c'est-à-dire que s'il peut même s'il aboie, la Gemara raconte que il y avait une dame qui était enceinte, il y a un chien qui aboyait, elle a eu tellement peur qu'elle a fait fausse couche. Et le propriétaire dit non, n'ayez pas peur, je vais enlever les dents, il fait rien du tout. Il est trop tard, mon cher, mais déjà le gosse, il est déjà. Ouais, donc ça, c'est dangereux. C'est interdit, d'accord. Mais en soi, un chien qui n'est pas dangereux. Et qui est tenu en laisse pour ne pas faire peur aux gens et qui ne va pas aboyer pour faire peur aux gens, c'est permis.
C'est comme monter le Shabbat, un chien.
Tous les animaux sont monctés Shabbat.
Sauf si c'est le vôtre, hein, pour lui donner à manger.
Tous les animaux sont monctés, on a le droit de toucher un animal pour le nourrir.
Pour le nourrir.
Voilà.
Ah, par rapport aux chaussures, j'ai le droit de dire amen, même si j'ai touché mes chaussures, tout ça, le amen c'est bon.
Non.
Même amen.
Il faut savoir les mains. Tu peux vite te les frotter comme ça. Si on n'a pas d'eau pour se laver les mains, on peut se frotter les mains sur quelque chose rapidement et c'est voilà, comme si on se lavait les mains tant qu'on ne peut pas se laver les mains avec de l'eau.
La main, ça a une valeur de parole de temps.
Oui, bien sûr. Plus qu'une bracha, c'est marqué. Gadol Abarech, on est au terme d'un varech.
Sans si pas, je ne peux pas alors.
A priori, non.
Si on n'a pas assez de...
Mais c'est grave de ne pas répondre amen. Alors au moins tu mettras vite ta main sur la tête. C'est très grave de ne pas dire amen à une bracha.
Hein? La main, la valse.
C'est vrai, mais c'est tellement grave de ne pas dire amen à une bracha. C'est tellement grave que mieux vaut dire amen, même sans rien du tout.
Et la bouche pleine.
Non, bouche pleine, parce que vu qu'on a peur que tu t'étouffes, alors on dit que c'est mieux vaut que tu t'étouffes pas.
Je m'étouffe pas, je sais que je ne vais pas m'étouffer.
Ah, tu réponds? Mais il n'y a pas, je sais. Chazal l'ont dit. Alors il y en a qui ont voulu dire, ça dépend où est la nourriture. C'est près de la gorge ou près de la bouche. C'est près de la sortie, ça va. C'est près de la gorge, c'est dangereux. Donc quand on a la bouche pleine, on ne répondra pas à amen. D'autant plus qu'on est pressé de répondre. Donc des fois, on reste de travers. Bahou Adonai, vraiment amen.